Europe 1, il est 12h30 et c'est le journal de la mi-journée avec vous François Claus. Bonjour François.
Bonjour Johanna, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le débat qui a été posé ce matin au tribunal administratif de Rennes est très certainement le parfait miroir des dilemmes, des contradictions et des tensions de notre temps. Un maire qui veut protéger ses habitants des pesticides, mais qui fragilise ses agriculteurs et qui se retrouve devant un tribunal parce que ce n'est pas de sa compétence. Embarrassé et pressé par des centaines de manifestants, le juge administratif ce matin s'est donné une semaine de réflexion. Nous allons dans un instant vous faire vivre ce bras de fer juridico-politico-sociétal qui va bien au-delà de l'avenir d'une petite commune de 600 habitants en Bretagne. L'autre grande question du jour est tout aussi emblématique de notre époque. Jamais nous n'avons besoin de consommer autant de fruits et de légumes bio. Jamais nous n'en consommons autant. Et pourtant, jamais les distributeurs n'en ont autant profité pour s'offrir de confortables marges. L'association Que Choisir le dénonce depuis un an en vain. Les explications dans un instant de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. L'actualité de ce jeudi 22 août, c'est aussi un face-à-face qui s'annonce très musclé à l'Elysée entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. La course au badge dans Biarritz, bunkerisée à partir de ce soir et à deux jours du début du G7. Et puis la très chaude ambiance qui monte dans les rues de Strasbourg à quelques heures d'un match, un quasi-derby face à Francfort. Comme tous les midis, notre conseil de lecture du jour, dans les rayons de la librairie Mola de Bordeaux, quand littérature et air du temps ne font qu'un pour un retour à la ferme. Et puis la quatrième étape corse de notre reporter Romain Noquet, au cœur de la France estivale, nous plongerons à la recherche d'un trésor insulaire, le corail rouge de Bonifacio. Sans oublier, bien sûr, la météo du jour. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour François, bonjour à tous.
Toujours plus beau, toujours plus chaud.
Eh oui, sauf justement sur la Corse, hein, ainsi que sur les Alpes et la région PACA, où le ciel va rester nuageux aujourd'hui, voire menaçant, avec des pluies localement orageuses, tandis que sur tout le reste de la France, le temps est bien ensoleillé. Maximal en hausse aussi, comme prévu, 20 à 30 degrés en général, et jusqu'à 34 dans l'arrière-pays méditerranéen.
Votre météo complète à 12h58 et à partir de 13h, le meilleur de la France qui bouge avec Elisabeth Assayag.
Europe 1.
Cette brûlante actualité du mois d'août ne pèse finalement pas très lourd au regard de ce que vous allez entendre et au nécessaire coup d'œil dans le rétro quand l'histoire nous en apprend beaucoup. Oui, 22 août 2019, 22 août 1944, il y a 75 ans, les troupes hitlériennes vivaient leurs derniers jours dans la capitale. Après 4 années d'occupation, les drapeaux tricolores soudain remplacent les croix gammées, des barricades, Paris qui s'embrase et finalement les Allemands qui rendent les armes. 75 ans plus tard, notre reporter Pauline Jacquot est allée rencontrer chez elle une résistante, Jeannette van der Schoten. Elle n'a rien oublié de ce jour-là. Récit.
Je crois que j'ai ma carte encore.
Jeannette van der Schoten. Je suis née le 16 septembre 1918.
Elle pose sur la table sa carte du Parti communiste, une médaille de la Libération et quelques photos. Sa mémoire est intacte. À bientôt 101 ans, le regard de Jeannette ne vous quitte pas des yeux bleus, des boucles blanches. Elle s'assoit et se souvient. Août 44, voilà 4 ans qu'elle est entrée en résistance.
Mon premier travail, ça a été d'imprimer, de taper et de distribuer. On a commencé à taper l'appel du général de Gaulle, l'appel du Parti communiste. J'ai fait des distributions la nuit. Quand il y avait, comme on les appelait, les hirondelles, des flics qui passaient, on faisait comme si on était des amoureux. On risquait la mort pour ça, hein. Mais ça, ça ne nous faisait pas peur.
Ce 22 août, Jeannette et ses camarades sont réfugiés dans le 9e arrondissement, rue Saint-Georges, à quelques mètres des barricades.
Notre travail dans la libération, c'était la préparation, sitôt le départ des Allemands. Ça a été notre travail. Dès le début, j'ai été responsable du service social. On avait quelques camarades qui venaient nous dire où c'en était, qui, elles, étaient sur les barricades.
Les heures passent, mais les Allemands n'abdiquent pas. Les habitants longent les murs et Paris retient son souffle.
On avait peur de circuler. Ils tiraient des étages et ils ont résisté. On a eu peur longtemps. On a fait un travail de fourmi. Paris brûle-t-il ? Non, il n'a pas brûlé.
Le 26 août, le général de Gaulle défile sur les Champs-Élysées. Jeannette ne veut pas se mêler à la foule. Elle pense à Daniel, Pierre, Roger, Jean et Francine.
Ça me fait mal, ça me fait mal. Ça.
Francine Fromont, son amie fusillée 8 jours plus tôt.
On avait dit qu'on y arriverait, mais à quel prix ? À quel prix ?
Vous tous qui restez, soyez dignes de nous. Cette phrase de Guy Môquet ne l'a jamais quittée, son idéal non plus. Dans quelques jours, Jeannette ira souffler sa 101e bougie à la fête de l'humanité. Pour croire encore, saurait-elle, à des lendemains qui chantent.
Témoignage recueilli avec toute l'émotion que vous avez pu ressentir. Formidable témoignage recueilli par Pauline Jacquot.
Europe 1, il est 12h35. Et c'est la suite de votre édition de la mi-journée, François.
Alors, on ne connaît pas vraiment le menu du déjeuner à l'Élysée entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, qui doit débuter dans quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du chaud et du froid, peut-être même du sucré ou du salé. Très certainement, pas une véritable harmonie des plats. Bonjour Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors vous êtes en ce moment même à l'Élysée, le déjeuner et la première rencontre entre les deux hommes va débuter dans quelques instants face aux velléités exprimées à Berlin hier par Boris Johnson de renégocier un accord de sortie de l'Europe. Emmanuel Macron, lui qui s'exprimait devant la presse présidentielle a, et devant vous en partie, Jean-Rémy, a très clairement fixé des limites et son cadre.
Oui, et dès hier, effectivement, le président Macron a d'une certaine manière annoncé le menu du déjeuner. Pas de report sans perspective politique, pas de report de Brexit, pas de renégociation. Et pour le français, en fait, les propositions faites par Boris Johnson ne sont tout simplement pas une option. Elles vont à l'encontre des mois de négo entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Boris Johnson, fraîchement nommé Premier ministre, prétend toujours renégocier le Brexit, agitant le spectre d'une sortie sans accord au 31 octobre. Lors du déjeuner, le président français devra donc lui demander des clarifications, tout en promettant, c'est ce qu'il nous a dit hier, d'avoir des échanges cordiaux avec le Britannique. La position française, en fait, elle se base sur l'idée que le Brexit est avant tout une crise démocratique britannique. Hier, Emmanuel Macron nous confiait que l'Europe n'a pas à en être l'otage. Il insiste d'ailleurs régulièrement sur le risque de déstabilisation de l'Europe, de déstabiliser le marché. Et puis le risque d'Irlande du Nord risquer de raviver ce conflit, c'est irresponsable, a martelé hier le président français. On attend une déclaration des deux hommes autour de 13h ici dans la cour de l'Élysée, sur le perron. Vont-ils afficher clairement leur divergence ou peut-être faire preuve d'un peu de flexibilité? Ce qui est sûr, c'est qu'on est à deux jours d'un G7 qui veut faire la part belle au dialogue. Et on peut imaginer que publiquement, en tout cas, tout restera très poli et très consensuel.
Et merci Jean-Rémy Baudeau. On va suivre évidemment cette déclaration commune avec beaucoup d'intérêt. Et on vous retrouvera, Jean-Rémy, dans le Grand Journal du soir tout à l'heure à 18h. Une rentrée sans chef. Oui, Jean-Luc Mélenchon, plutôt absent de la scène médiatique depuis la déroute européenne de son mouvement, ne participera pas, c'est confirmé, à l'Université d'été des Insoumis de Toulouse ce week-end. A priori, c'est vrai que c'est pour une belle et grande cause, obtenir un entretien au Brésil avec l'ancien président Lula emprisonné. Il reste que cette absence intrigue, s'éloigner pour mieux se faire désirer, ou véritable et sincère recul. Ben écoutez ce matin la réponse de Manuel Bompard, député insoumis européen, qui répondait aux questions de Sébastien Krebs.
Jean-Luc Mélenchon a pu voir le président mexicain pendant l'été, et puis là il va voir l'ancien président brésilien. Ça démontre à ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon était fini, que je crois qu'il a une stature internationale que personne ne peut contester.
On peut quand même se poser la question si c'est pas un signal envoyé quand même de prendre un peu de champ, laisser un peu la main.
Bah, dans tous les cas, la France insoumise est une force politique qui ne repose pas que sur Jean-Luc Mélenchon.
Et c'est le ça fait le message
qu'il ne puisse,
aussi.
Bah, je pense qu'en tout cas, le fait qu'il ne puisse pas être là ce week-end va démontrer aussi qu'il y a à la France insoumise une nouvelle génération que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs contribué à faire émerger et qu'elle est tout à fait en capacité d'animer, de faire vivre ce mouvement qui, je crois, a toujours des raisons d'exister, toujours plus fortes pour la lutte contre les inégalités, la prise en compte du changement climatique, la nécessité de la rénovation démocratique du pays. Et voilà, ça c'est tous les combats et les sujets sur lesquels on va discuter ce week-end.
Voilà ce que disait ce matin sur Europe 1 Manuel Bompard, le député insoumis européen. Et on va suivre avec d'autant plus d'intérêt cette Université des Insoumis ce week-end à Toulouse.
À suivre dans votre édition de la mi-journée, François, on parlera du marché du bio et des marges confortables pour les distributeurs. Écoutez Europe 1, il est 12h40, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous François Claus.
On le présentait un peu, l'association de consommateurs UFC Que Choisir le confirme et le dénonce ce matin. La manne du bio ne doit pas seulement son coût souvent très élevé pour le consommateur aux seules conditions très exigeantes de production, mais aussi aux marges très confortables que se réservent les distributeurs. L'association Que Choisir l'avait dénoncé l'année dernière, non seulement rien ne change, mais force est de constater que la tendance à l'augmentation des prix, singulièrement sur les fruits et légumes bio, dont la consommation a augmenté de 36% en un an, elle s'accélère, cette augmentation des prix, dossier de Maude Descamps.
C'est ce qu'on appelle avoir flairé le bon filon. En moyenne, dit l'UFC Que Choisir, les marges pratiquées sur les fruits et légumes bio dans la grande distribution sont 75% plus élevées que sur les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Et plus un produit plaît aux Français, plus les marges pratiquées sont importantes. Pour la pomme de terre, par exemple, qui est dans le top 3 des fruits et légumes les plus consommés par les Français, les marges sont 83% supérieures au conventionnel. Pour la tomate, autre favori, 109%. Et la palme d'or revient au poireau avec une marge 165% plus élevée. Certes, les fruits et légumes bio coûtent plus cher à produire, mais pas dans de telles proportions, dit l'association de consommateurs qui accuse la grande distribution de jouer sur la peur des pesticides. Le consommateur soucieux de sa santé n'hésite pas à mettre la main au portefeuille. Mais à la fin de l'année, ce consommateur aura déboursé 657 euros pour ses fruits et légumes bio, là où son voisin, qui n'achète que des produits conventionnels, aura payé 379 euros, soit 43% de moins.
Maud Descamp du service économie d'Europe 1. Protéger ses concitoyens ou défendre ses agriculteurs? Tel est le dilemme actuel dans de nombreuses communes de France où la chasse au glyphosate est ouverte. Soucieux de préserver sa population des risques potentiels de cancer liés aux pesticides, le maire d'une petite commune d'Ille-et-Vilaine, Langouette, 604 habitants, a décidé il y a quelques semaines de prendre un arrêté municipal pour tout simplement interdire l'usage du glyphosate dans les exploitations agricoles de sa commune à moins de 150 mètres d'une maison. Problème 1, les agriculteurs ne sont pas d'accord. Problème 2, ce n'est pas de son ressort. Il était donc convoqué ce matin devant le tribunal administratif de Rennes. Mais le dilemme juridique est devenu un dilemme médiatique, politique et militant. Et du coup, Élise Dangean, le tribunal se donne une semaine de réflexion. Car devant les portes du tribunal de Rennes, il n'y avait pas que le maire ce matin.
À sa sortie du tribunal, le maire de Langouette a été acclamé par la foule. Au total, plus de 500 personnes sont venues le soutenir, des habitants de sa commune, des représentants d'associations pour l'environnement et même des enfants qui ont parcouru plus de 200 km à vélo pour rejoindre l'édile à Rennes. Alors forcément, Daniel Cueff est sorti confiant.
Je ne veux plus que dans ma commune soient faites des analyses d'urine dans lesquelles on trouve chez des enfants de 6 ans des taux de glyphosate 30 fois supérieurs à la norme.
Au cours de l'audience, son avocat a évoqué une décision de bon sens, décision de plus en plus populaire selon le maire de Langouette.
La bagarre n'est pas finie. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que 20 maires en France ont pris le même arrêté. Nous avons créé un petit comité pour s'entraider, pour échanger nos informations juridiques, pour essayer de faire en sorte que nous ne puissions pas être interdits de prendre des arrêtés d'éloignement des pesticides.
Le tribunal rendra sa décision la semaine prochaine. Il pourra annuler l'arrêté anti-pesticides, voire infliger une amende au maire breton.
Dossier signé Hélène Dangean.
Europe 1. Il est 12h44, vous écoutez votre journal avec François Claus.
Il ne reste plus que quelques heures de liberté pour les touristes et les habitants de Biarritz à quelques heures du G7. Il faut effectivement dans quelques heures avoir l'indispensable badge dans une ville totalement bunkérisée, un macaron également sur la voiture. Tout ça à partir de minuit avec des zones très limitées. La course au badge est donc lancée. Si certains s'y sont pris à l'avance, il y en a beaucoup, quelques 6000 environ, qui s'y prennent au dernier moment. Et donc, c'est une course assez féroce, comme l'a pu le constater l'envoyé spécial d'Europe 1 Biarritz, Jean-Jacques Héry.
Plus l'ouverture du sommet approche, plus la file d'attente s'allonge. Pour les professionnels du coin et les biarros, pas de surprise. Mais quand on est touriste, comme Lionel venu de Marseille, et qui est alloué en pleine zone bleue à accès restreint, c'est plus déstabilisant.
J'ai pris connaissance que le G7 avait lieu ce week-end il y a une dizaine de jours seulement.
Aïe.
Ouais, là, je dois demander un pass pour moi, ma femme, mes deux enfants et pour mon véhicule. C'est compliqué, c'est les vacances. Voilà, on fait avec.
Michel a sa maison dans la zone bleue.
J'ai juste des badges à récupérer.
Le macaron se met sur le tableau de bord dans votre voiture et les badges toujours à avoir sur vous.
Je trouve pas que ce soit très compliqué. Vous entendez personne vous péter, vous entendez personne crier.
On croise quand même quelques professionnels un peu mécontents. Car lorsque l'on doit intervenir dans la zone rouge, la zone où ont lieu les réunions diplomatiques et où l'accès n'est possible qu'à pied, tout devient plus complexe. Philippe doit obtenir 45 badges pour les employés de son entreprise de nettoyage. Il n'y arrive pas.
On fait la queue pendant 40 minutes pour tomber sur une jeune fille charmante, mais qui malheureusement ne peut rien nous dire. On nettoie des chambres d'hôtel, on est obligé de les faire puisqu'ils sont complets. Donc même si on doit venir à pied parce qu'il y en a qui sont en zone rouge, mais au moins que mon personnel puisse venir travailler.
Des badges continueront d'être délivrés pendant le sommet, notamment pour les touristes qui arriveront ce samedi dans la ville basque. Biarritz, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
À quelques semaines de la rentrée universitaire, la France est-elle en passe de perdre son aura? Pays jusque-là jugé très attractif pour les études supérieures, en tête dans les choix des pays non anglophones, la France est désormais supplantée par L'Allemagne. L'Allemagne qui enregistre 6000 inscriptions supplémentaires d'étudiants étrangers dans ses universités. Cela mérite bien une explication. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Avant de partir dans tel ou tel pays, les étudiants étrangers regardent avant tout les perspectives d'emploi une fois leurs études terminées. 83% d'entre eux disent que décrocher un diplôme allemand est à leurs yeux le meilleur des sésames pour leur vie professionnelle. Selon un sondage réalisé récemment, la qualité de l'enseignement dans les universités allemandes est le premier critère dans leur choix. À cela s'ajoute un avantage financier indéniable, deuxième critère cité. Il est plus facile et moins cher de se loger en Allemagne qu'en France. Et surtout, les études restent gratuites. Une seule région allemande a instauré des droits d'inscription pour les non-européens, c'est le Bade Württemberg, et il a vu leur nombre reculer de manière spectaculaire en quelques années, moins 20%. Les premiers à venir sont les Chinois, deux fois plus nombreux que les Indiens, suivent les Autrichiens, les Russes, les Italiens et les Syriens. Beaucoup comptent sur cette première expérience en Allemagne pour y faire leur vie. Le taux de chômage ici pour les moins de 25 ans n'a jamais été aussi bas. Seuls 6% des jeunes n'ont pas de travail. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
À suivre dans votre journal, on va parler football avec la rencontre ce soir entre Strasbourg et Francfort. Europe 1, il est 12h49, la suite de votre édition de la mi-journée avec François Clos.
Ce serait de très mauvais goût de parler d'une invasion allemande à Strasbourg, mais celle-ci, elle s'annonce bel et bien joyeuse, festive, et va conférer à la ville une très très belle ambiance. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour François.
Oui, parce qu'il s'agit de football, Arthur. Première manche, match aller de cet affrontement entre Strasbourg et Francfort, poétiquement appelé derby de la saucisse d'ailleurs, au passage par l'entraîneur alsacien. On attend quelques 10 000 supporters allemands dans la ville, parce qu'en Allemagne, grand pays de football, c'est la tradition. Même si on n'a pas de place au stade, on accompagne son équipe. Ils ne seront qu'un millier au stade, donc si je fais bien les comptes, ça en fait à peu près 9 000, Arthur, sur les terrasses, dans les restaurants, dans les bars. Et quand on connaît côté français la passion football autour du Racing, et bien tout ça, ça devrait nous donner une ambiance très chaude, Arthur.
Et pour éviter qu'elle soit trop chaude, François, en arrivant ici à l'Académie de la bière tout à l'heure, je trouvais Adil, le patron, en train de s'assurer qu'il aurait assez de vigiles dans son bar ce soir.
J'étais justement en train de prévenir mes équipes que peut-être prévoir un portier plus tôt aujourd'hui pour pouvoir filtrer, parce que s'ils arrivent à 15 000, ici, qu'ils n'ont que 1000 personnes en parkage, ils vont être tous dans la ville, donc ça va peut-être pas s'échauffer, mais bon. Il vaut mieux quand même prendre les devants et avoir un minimum de sécurité pour notre clientèle habituée, au cas où.
Vous êtes un supporter du Racing ?
C'est génial, pour une équipe qui il y a quelques années qui était encore en amateur, et aujourd'hui qui joue à barrage de Coupe d'Europe, c'est quand même un beau parcours.
Alors, les autorités sont prudentes et donc arrêté préfectoral oblige, les supporters allemands sans billets n'auront pas le droit d'aller ce soir dans le coin de la Méno, ça va faire du monde au centre-ville. Philippe sort d'un bar et il soupire.
Bah, c'est très compliqué, quoi. Je pense qu'il va falloir aller s'excentrer un peu. Sinon, ce qu'il dit, c'est qu'il faut venir à 18h pour trouver de la place.
2h30 avant le coup d'envoi.
Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est l'engouement, quoi, de la ville. Ouais.
Pourquoi vous n'allez pas au stade?
Ouais, c'était trop cher. Là, les billets, ouais, c'était dans les 60€, donc c'était trop cher.
Pour un club qui, il n'y a pas si longtemps, était amateur.
Ouais, c'est dommage, quoi. Ça devient moins populaire. Ouais. C'est un peu dommage.
Un petit pronostic?
Bon, ben, bah, allez, on va dire 3-2 pour le Racing.
Pour la petite histoire, sachez que ça fait 8 ans, jour pour jour, que le Racing était placé en liquidation judiciaire avec relégation en CFA, la 5e division.
Magnifique parcours pour Strasbourg et on va vivre tout ça avec vous dans le journal du soir, Arthur Mbaché, à partir de 18h. Rappelons qu'il y aura un match retour à Francfort pour une qualification en Europa League. Allez, c'est l'heure de notre balade quotidienne, notre balade sonore dans la France estivale. Nous sommes depuis 3 jours en Corse avec Roman Hockey et nous allons, alors accrochez-vous bien, plonger à la quête d'un trésor insulaire, le corail rouge.
Au large de Bonifacio se cache le trésor de la Corse, le corail rouge. Rendez-vous avec Jean-Philippe Giordano, l'un des 7 corailleurs de l'île.
Alors voilà l'archange, il est là, il vous fait un sourire.
C'est le nom de votre bateau?
C'est le nom du bateau.
Et c'est parti pour?
Avec 2 fois une demi-heure de route, allez on va dire 4 heures quoi.
On y va, je vous suis?
Allez, c'est parti, Romain.
Cap à l'ouest, à 2 km des côtes, voilà les zones de pêche. Aux commandes, Jean-Philippe, 36 ans d'expérience, les yeux rivés sur le sondeur.
Quelquefois, je peux sonder pendant des heures, hein, tant que je ne trouve pas de roche, jusqu'à ce que... Voilà, vous le voyez apparaître le rocher, là?
Là-bas, ah oui, d'accord.
Ça y est, il monte, ça y est, voilà.
C'est un peu votre carte au trésor.
C'est bien ça, c'est exactement
le
ça.
Le corail rouge est sous nos pieds, Jean-Philippe va descendre à plus de 70 mètres de profondeur. Une pêche exigeante qui permet de préserver la ressource. À la surface, Lisa, marin, assure sa sécurité.
Je vais lui lancer la gueuse, donc c'est le gros plomb pour qu'il aille le recevoir, c'est sa ligne de vie. Par contre, là, je vais être assez concentrée parce qu'il va falloir que je fasse pivoter le bateau. Jean-Philippe, tu me reçois ?
Sous l'eau, Jean-Philippe, dans une eau à 12 degrés, lampe et marteau à la main, il cueille uniquement le corail de plus de 7 mm de diamètre. Et après 2 heures de plongée, la surface.
Voilà, entre 1,5 kg et 1,8 kg, bien tenaillé, bien sec. Ouais, c'est une belle pêche. Alors vous voyez, si je tape avec ma martelette, vous entendez ce bruit ? La qualité du corail est pur.
Un corail que Jean-Philippe taille lui-même avant de l'exposer dans sa boutique de Bonifacio. Plus de 5000 modèles de pendentifs, bracelets, colliers, rouges flamboyants. Une découverte pour cette touriste.
Ça vous plaît ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, vraiment. Ils sont magnifiques. Puis la couleur, elle est particulière, je trouve.
Ah, de bœuf de Bonifacio.
Tout à fait. En le regardant, en regardant mon bijou que j'aurais acheté ici, je penserai à la Corse. Ça, c'est sûr et certain.
Jusqu'à 7000 euros selon la taille des pièces. Un bijou qui, selon la légende, éloigne le mauvais œil et règle aussi les problèmes de dents.
Merci Roman Hoquet. Oui, on en veut du corail rouge. Hein. Beaucoup de vertus. Et on retrouvera Roman en Corse pour la dernière étape de son périple insulaire demain. C'est l'heure du conseil lecture du jour dans les rayonnages de la librairie Mola de Bordeaux avec Stéphane Place. Et vous allez voir, on va rejoindre un peu l'actualité du début du journal. C'est un livre entre nostalgie, utopie, rêve d'un autre vie qui nous parle, lui, de notre temps. Oui, ce retour à la campagne, à la vie rurale, au monde paysan. Il a été vécu, il est raconté par un auteur belge, Chris de Stoop, dans son livre intitulé « Ceci est ma ferme », publié chez Christian Bourgois.
Entre le roman et le reportage, ce récit d'un journaliste belge qui a mené de nombreuses enquêtes de terrain durant 30 ans nous conduit dans le lieu de son enfance, dans cette ferme familiale, dans le polder de Vasse. C'est là, dans cet endroit chargé de souvenirs, que Chris de Stoop revient après le suicide de son frère qui gérait l'exploitation agricole. Il y a cette scène très touchante où l'auteur annonce à sa maman, âgée et malade, qu'il a décidé de reprendre le flambeau, sans grande connaissance du métier qu'on cède le fils. « Toute vache a commencé en tant que veau », rassure la mère dont le visage s'éclaire. « Ceci est ma ferme », c'est le titre de ce livre que vous recommande vivement Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Il va découvrir en fait ce qu'est devenu le monde de la paysannerie belge. Comment en fait surtout ce monde se retrouve pris entre deux tenailles absolument infernales que sont d'un côté les injonctions de l'Europe et de l'autre une sorte